François Baudin.
Discussions politiques à Bougival, discussions économiques et sociétales rue Oudinot. Nous ferons le point dès le début du journal sur le sommet de Paris. La délinquance constatée depuis le début de l'année n'a rien à voir avec celle de 2024. Il s'agit surtout d'une délinquance d'appropriation. Les forces de l'ordre sont aussi particulièrement visées, nous a dit ce matin la directrice de cabinet du haut-commissaire. Un nouvel espace de jeu et de détente, le nouveau parc de loisirs de Lanzvata est ouvert depuis ce matin sur le site de l'ancienne polyclinique. En métropole, passe d'armes sur les énergies renouvelables entre Bruno Retailleau et Agnès Pannier-Runacher. Il traduit les tensions au sein du gouvernement. François Bayrou tente de calmer le jeu. La grève des contrôleurs aériens, 933 vols annulés, 300 000 passagers impactés au niveau européen. Une grève qui a un fort coût pour les compagnies aériennes. Et puis dans la page sport, le point sur les mini-jeux du Pacifique et les performances des cagous. C'est aussi demain soir pour nous le départ du Tour de France 2025 depuis Lille. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra avec le magazine Transparence comme tous les vendredis midi. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et votre invité sera cette semaine Philippe Blaise.
Philippe Blaise, premier vice-président de la province sud, qui est l'invité du magazine Transparence. Il est aussi membre du groupe loyaliste au Congrès. Il sera interrogé, bien sûr, sur l'actualité politique, mais aussi sur les enjeux économiques auxquels la Calédonie doit faire face. On se retrouve d'ici une demi-heure en sa compagnie, ce sera juste après votre journal.
Et on vous retrouve à 16h45 pour le Club politique Radio Rythme Bleu.
Et au sommaire de ce Club politique, sans surprise, un gros sujet, le sommet de Paris et le Collège économique et sociétal, ainsi que les déclarations des partenaires politiques qui accompagnent ces rendez-vous, avec notamment la conférence de presse tenue hier soir par le FLNKS. Et puis nous parlerons aussi du jugement du tribunal correctionnel dans l'affaire des emplois fictifs, avec des questions sur ses conséquences politiques. Club politique qui débute cet après-midi à 16h45.
À Paris, les partenaires politiques ont rejoint l'hôtel Hilton de Bougival pour poursuivre les discussions et les négociations qu'ils ont débutées mercredi soir et qu'ils poursuivront, Elisabeth, tout le week-end sans échéance prédéterminée.
Mais auparavant, la délégation du FLNKS conduite par Emmanuel Tchibaou a tenu une conférence de presse hier soir pour nous. L'objectif était de clarifier sa position concernant les discussions sur l'avenir. Le FLNKS est favorable à un accord politique, mais il ne le signera pas sans avoir auparavant consulté sa base. Il n'y aura donc pas de signature pendant cette séquence, c'est ce qu'a expliqué Emmanuel Tchibaou.
Tout le monde espère un accord. Il faut savoir le prix, la mise de départ, elle est où. C'est ça qui détermine finalement l'avancée pertinente des négociations. Nous, on est pour un accord politique. Comme le président Macron l'a indiqué, et ce qui a été la méthode engagée depuis février avec le gouvernement français, c'est qu'à chaque avancée de discussion, un retour devait être fait auprès des structures. Les perspectives d'avancer sur un accord, elles sont d'abord sur, d'une part, le cadre de la mise de départ, la temporalité dans laquelle ça s'inscrit, le contenu, et puis après qu'on fait valider par nos instances. Donc oui, on est pour un accord politique, et oui, il y aura un nécessaire retour auprès des structures avant de s'avancer sur la finalisation du projet politique institutionnel qui va sortir des discussions.
Emmanuel Tchibaou, qui était accompagné de Michael Forest, d'Alozio Sacco et d'Omera Neslin, mais aussi du président du FLNKS, Christian Théin. C'est donc un rappel de la position permanente du FLNKS qui repartira vers ces structures pour valider le contenu des discussions. Mais sur le fond du dossier aussi, le FLNKS reste sur sa position. Le projet Valls a été déposé à Deva par le ministre des Outre-mer en tant que représentant de l'État. Et c'est ce projet qui reste le plancher des discussions. Un plancher en deçà duquel les indépendantistes ne veulent pas aller. Emmanuel Tchibaou qui veut maintenant que ce projet fasse l'objet d'un document écrit.
On ne veut pas un document, on veut que ça soit clarifié sur papier. C'est ça notre objectif, c'est qu'on a eu le projet qui a été présenté par le ministre Valls. On a parlé, on a fait des débats depuis février avec une méthode qui a permis à chacun de défendre sa vision politique. Nous, on veut un pays souverain, les loyalistes veulent garder le lien avec la France. Les attentes, elles sont sur la mise de départ, clarifier le cadre de la négociation, si on se lance sur une trajectoire, les modalités qui sont rattachées à l'exercice du droit à l'autodétermination en tant que mouvement de libération. C'est ça notre objectif, c'est de sortir par le haut de ce qui a été la parenthèse coloniale. Donc nos attentes, elles sont là, sur le cadre de la négociation, le droit à l'autodétermination, de quelle manière il s'exerce, et puis après, les modalités qui sont rattachées à mettre en œuvre une indépendance viable.
Voilà pour ces propos du chef de la délégation FLNKS. Reste une ambiguïté sur les propos tenus la veille par le président de la République. Des propos qui, vous le savez, n'ont pas été rendus publics. Emmanuel Tchibaou déclare que le discours d'Emmanuel Macron engage sur une trajectoire et que le mot « État associé » a été prononcé. En fait, selon une source proche de l'Élysée, le président de la République ne s'est pas engagé sur un modèle institutionnel figé. Il a proposé une transition de 15 à 20 ans, pendant laquelle les acteurs calédoniens pourraient bâtir un projet commun destiné à être validé par un référendum de projet. Toujours selon cette source proche de l'Élysée, le chef de l'État a balayé plusieurs hypothèses institutionnelles. Et s'il a prononcé les mots « État associé », il a aussi parlé d'État fédéré et de très large autonomie dans la République. En réalité, Emmanuel Macron a déclaré qu'il faut prendre en compte le résultat des trois référendums dont la légitimité et la légalité ne sont pas contestées. Et il a aussi souligné l'état de dépendance de la Nouvelle-Calédonie étant donné la situation économique. De sources concordantes à la fois proches de l'Élysée et chez les élus partisans de la France, le président de la République a proposé que s'ouvre une période de transition entre 15 et 20 ans, au cours de laquelle il faudra reconstruire, assainir, refonder et travailler sur un projet commun. Et au bout de cette période, il faudra faire un choix entre des modèles, mais il n'y a pas de modèle prédéterminé. Et une source proche de l'Élysée dément même l'article du Monde qui parle d'un chemin vers un État associé en affirmant que ce n'est pas du tout ce que le président de la République a dit. Emmanuel Macron a seulement parlé d'un chemin vers un projet commun et il a écarté l'hypothèse d'un référendum binaire. Et d'ailleurs, c'est pour ces raisons que les loyalistes et le rassemblement que vous avez entendu hier se sont réjouis des propos d'Emmanuel Macron à l'issue de cette rencontre à l'Élysée.
Après l'ouverture mercredi par le président de la République du sommet consacré à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des partenaires calédoniens se sont retrouvés au ministère des Outre-mer hier dans la soirée pour nous, pour assister au Collège économique et sociétal. Ce rendez-vous a débuté par une allocution du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, suivie de l'intervention de la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin. Les participants étaient très nombreux. En plus des partenaires politiques, les acteurs économiques et sociaux, les maires et les représentants de la société civile étaient présents. Et cette séquence se déroulait également en visioconférence à Nouméa au Haut-Commissariat pour ceux qui n'avaient pas fait le déplacement.
Et dans son allocution, Manuel Valls a rappelé que la Nouvelle-Calédonie fait face à une crise sans précédent qui nécessite le dialogue et des réformes pour refonder son avenir. Il a annoncé notamment la création d'une mission interministérielle dédiée, placée sous l'autorité du Premier ministre et rattachée au ministère des Outre-mer. Elle a été confiée à Claire Durieux, qui connaît bien la situation du territoire. Depuis le début de la crise économique consécutive aux émeutes de mai 2024, elle avait été chargée à Bercy du dossier calédonien et de la mise en place des dispositifs de soutien à l'économie calédonienne. Alors on le sait, ce collège économique et sociétal est structuré autour de quatre grands thèmes: la consolidation des finances publiques et les réformes structurelles, le nickel, la diversification économique et enfin le projet de société. Parmi les participants à ce collège, Pascal Vittori, le maire de Bouloupari et président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie.
Cette journée a débuté par toute une partie sur les finances publiques. Donc là, j'ai pu exprimer les difficultés des communes à percevoir les recettes de la reconstruction et à percevoir également les aides de l'État pour leur fonctionnement. S'en est suivie toute une partie sur le nickel, puisque le nickel est fondamental pour la reprise de la Nouvelle-Calédonie, pour l'emploi. Et donc là, on a pu entendre les différents acteurs et l'État s'est engagé à poursuivre les discussions, à inscrire un certain nombre de mesures dès cet été dans la loi de finances, à travailler également avec les investisseurs qui seraient prêts à investir dans les usines. Et donc il y aura cet été en métropole, c'est-à-dire en juillet-août, peut-être un mini-sommet qui devrait regrouper les responsables institutionnels calédoniens pour traiter la question du nickel.
Et puis la présidente du MEDEF-NC, Mimsy Dele, participait elle aussi à ce collège économique au ministère des Outre-mer. Elle voudrait qu'une trajectoire économique et sociale soit intégrée dans le futur accord politique, parce que l'économie, rappelle-t-elle, est le fondement d'une société.
C'était une journée intense où on a reposé un certain nombre de constats sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, mais on s'est surtout efforcé de sortir un plan d'action, parce que l'idée c'est véritablement d'arriver à intégrer au sein d'un accord politique qu'on espère tous, un véritable accord et une véritable trajectoire économique et sociale pour la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire des engagements, à la fois des politiques locaux mais aussi de l'État à relancer la Nouvelle-Calédonie sur la voie du développement économique. L'économie, je dirais que c'est le fondement d'une société, c'est ce qui permet de financer des services publics, c'est ce qui permet de financer des institutions, c'est aussi l'endroit, je le rappelle, une entreprise où le lien social se crée justement en dehors de toute perspective politique. Donc l'entreprise a ce sens très très important pour la Nouvelle-Calédonie et aujourd'hui qu'on reparle de ce sens-là et de l'importance au sein d'un accord politique d'avoir une portée économique, ça me semble tout à fait important. La confiance, c'est ce qui est la base de l'économie et l'accord politique final, ce sera le socle de cette réussite.
Et après la tenue de ce collège économique et sociétal qui doit se terminer vendredi midi à Paris dans la soirée pour nous, les négociations politiques vont reprendre à l'hôtel Hilton de Bougival et elles doivent se poursuivre pendant tout le week-end à huis clos.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec la réponse à notre question d'hier. 87% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils souhaitent que le sommet consacré à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie débouche sur un accord. Ils sont 13% à dire qu'ils ne le souhaitent pas. Notre question du jour, êtes-vous rassuré par la sécurisation mise en place autour des établissements scolaires? Si cela vous rassure, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Justement, la sécurité près des établissements scolaires renforcés, c'est une préoccupation des forces de l'ordre toute l'année, mais elles sont plus vigilantes et plus présentes depuis la rixe qui s'est produite mardi matin devant le lycée Jules Garnier. L'État reste donc très attentif, nous a dit ce matin Anaïs Haït Mansour, la directrice de cabinet du haut-commissaire, était notre invitée à 7h30.
La sécurité devant les établissements scolaires, on la mène au quotidien, tout le long de l'année, mais en effet... Mardi, il y a eu un événement très grave devant Jules Garnier, cette agression avec une arme blanche. Heureusement, pas de blessés. D'ailleurs, je tiens à remercier l'équipe éducative de Jules Garnier, le chef d'établissement et aussi des élèves qui sont venus pour un peu apaiser la situation. Donc là, on rappelle un peu les règles, on est de nouveau présent. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a encore des opérations en cours partout sur le territoire de sécurisation des écoles.
Au-delà des établissements scolaires, les chiffres des 6 premiers mois de l'année montrent des changements dans la délinquance, dans sa nature en tout cas. Ce n'est plus une délinquance liée aux émeutes, a souligné Anaïs Mansour.
Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la délinquance de 2024 et on revient à des niveaux qui sont comparables à 2023. Le nombre d'incendies volontaires, ils ont été divisés par 4. Les cambriolages d'entreprises, ils ont été divisés par 3 par rapport à 2024. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une vraie fracture de la société, une fragilité dans la société et que les faits de délinquance qu'on observe sont différents et leur prépondérance sont différents par rapport à 2023. Je vous donne deux exemples très simples. La hausse des cambriolages de logements, elle a augmenté de 50% par rapport à 2023 et les violences faites aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Ça a explosé par rapport à 2023. On est à des niveaux qui sont quasiment les mêmes que 2024. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine décomplexion de la violence vis-à-vis de ce qui représente l'État. Depuis le début de l'année, on a 101 gendarmes blessés. Il y en a eu un 101e là cette nuit, lors d'un caillassage, et 3 policiers blessés. Quand je dis blessés, ils ont été visés directement dans leur intégrité physique. Mardi à Thiot, il y a un gendarme mobile qui s'est fait percuter par un véhicule dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Donc moi, je veux d'abord dire au nom du ministère de l'Intérieur, au nom du Haut-Commissariat, tout mon soutien aux forces qui sont pleinement engagées pour sécuriser tous les Calédoniens. Mais là, voilà, on a une délinquance qui est en baisse, qui est stable par rapport à une année de pré-crise. Mais on sent qu'il y a une prépondérance de certains actes de délinquance qui démontrent qu'il y a une fragilité dans la société calédonienne aujourd'hui.
Et cette fragilité provoque une délinquance qu'Anaïs Haït Mansour qualifie de délinquance d'appropriation par opportunité.
On est sur de la délinquance d'appropriation par opportunité. Ce n'est pas de la délinquance organisée, c'est par opportunité pour avoir des vivres ou de l'argent liquide ou des cigarettes. Donc nous, on est très vigilants. On a reçu d'ailleurs le représentant des stations mobiles parce qu'ils ont été victimes à Moindou et quelques temps plus tôt dans le Grand Nouméa. Les forces de l'ordre ne sont pas chargées de s'occuper de la sécurité privée des stations. Mais par contre, on prend en compte leurs demandes, on renforce les ronds et patrouilles. Et là, il y a une enquête judiciaire qui est en cours concernant Moindou. Donc, je n'ai pas de commentaires à faire, mais on est dessus et on travaille. Et on est vigilant, on densifie le terrain pour être là où il faut, quand il le faut. Et on ne laissera rien passer, comme sur les RICS. La personne qu'on voit dans la vidéo à Jules Garnier, elle a été interpellée en 24 heures, placée en garde à vue. Et on ne laissera rien passer.
Anaïs Haït Mansour, la directrice de cabinet du haut-commissaire, qui était ce matin notre invitée. L'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site internet rrb.nc. En attendant, à 11h45, une première pause dans ce journal, avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie dans un instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Prenez Prenez soin de votre basse-cour. Du 23 juin au 13 juillet, le poulailler Medium Square est à 59 990 francs seulement. Vos animaux à plumes et à poils ont aussi droit au bien-être. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Mon Club, l'appli fidélité numéro 1 en Nouvelle-Calédonie. Dans vos hypermarchés géants et supermarchés casinos, cagnottez 10% sur plus de 1000 produits toute l'année. Oui, oui, Mon Club, c'est plus de 1000 produits remisés toute l'année dans vos hypermarchés géants et supermarchés casinos. L'application Mon Club, engagée toute l'année pour votre pouvoir d'achat. Pensez à la présenter en caisse. Remise créditée sur la cagnotte réservée aux membres Mon Club. Non cumulable avec d'autres promotions en cours, non échangeables et non remboursables. Hors alcool et produits réglementés. Application gratuite la première année, puis cotisation annuelle de 1000 francs prélevée sur la cagnotte sans lien avec votre compte.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec d'abord des nouvelles du vol spécial Air Calin SB-701 parti de Singapour. Il devait se poser hier matin à la Tontuta, mais après plusieurs passages au-dessus du territoire, il n'a pas pu atterrir en raison des mauvaises conditions météo et il a été dérouté vers Fidji. Les passagers ont été pris en charge, hébergés à Nandi par la compagnie. L'avion est arrivé ce matin, peu avant 8h à Tontuta. En conséquence, le vol SB-740 entre Nouméa et Singapour, prévu aujourd'hui, a été reprogrammé à 9h50 avec une arrivée à Singapour à 16h10. Le vol SB-741 est toujours en attente de reprogrammation. La séance du Conseil économique et social réunit ce matin pour étudier un avant-projet de loi du pays destiné à une meilleure prise en charge du handicap et de la perte d'autonomie. C'est ouvert par une minute de silence. Les membres du CESE ont en effet rendu hommage à un ancien conseiller, Poupoune Debien, décédé la semaine dernière, rappelle le président du CESE, Jean-Louis d'Angleberme.
Il a défendu l'intérêt des agriculteurs, donc il était là en tant qu'agriculteur, comme monsieur mon voisin. Donc il représentait le Collège des agriculteurs. Comme on a aussi aujourd'hui la vice-présidente. Donc on a décidé, enfin, ils ont décidé ensemble, hein, parce qu'ils sont proches. Moi, je connais bien France, hein. Je connais, on se connaît. Qui ne connaît pas France quand on a un certain âge, au moins. Et puis, j'ai laissé à ceux qui étaient proches de lui de pouvoir dire un mot. Donc le choix a été décidé entre nous, que c'était monsieur Guy, mon voisin, qui faisait un petit mot à l'occasion de cette minute de silence.
Et c'est donc Guy, mon voisin, qui a prononcé quelques mots avant la minute de silence.
Poupoune était éleveur bovin et que moi je suis sur Pointe-Boult et que Poupoune était sur Vaud, on était dans le métier, quoi. Ce que j'ai surtout souligné, c'est que j'en sais quand même quelque chose, c'est que bon, je suis pas loin quand même de la génération Poupoune, et que à cette époque, c'est ce que j'ai dit au CESE ce matin, c'est que à l'époque, il était plus facile d'aller trouver un job à Nouméa qu'en Brousse, ou d'aller travailler au nickel, ou si on était diplômé, de rentrer dans l'administration, sachant que l'élevage bovin et l'agriculture en général n'étaient pas un des métiers les plus gratifiants et rémunérateurs de la Calédonie. Et donc, je pense que c'est courageux, il a fait le choix de rester dans son village à Témala, d'acheter une propriété. D'ailleurs, il était dans les premières personnes qui ont acheté le morcellement de la propriété La Fleur, hein, et de s'engager dans l'élevage. Je l'ai souligné parce qu'à l'époque, on le faisait par conviction. On ne le faisait pas par appât du gain.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou. C'est le début de 3 jours de fête à Canala qui organise la 24e édition de la fête de la mandarine et des fruits. Lors de ces 3 jours de fête, de nombreuses animations et activités découvertes, notamment des randonnées pédestres et des balades historiques sont au programme. Sans oublier bien sûr des stands de produits locaux frais ou transformés. Cette fête de la mandarine et des fruits se poursuit jusqu'à dimanche à Canala. Bonne nouvelle pour les enfants et pour leurs parents. Un nouveau parc de jeux a ouvert ses portes à Nouméa. C'est un espace de loisirs situé sur le site de l'ex-polyclinique de Lansvata, 6000 m² de surface que la mairie de Nouméa a réaménagé en y installant des jeux, des espaces de workout, un terrain de pétanque ou encore un deck pour accueillir concerts et spectacles. La structure est officiellement ouverte depuis ce matin et quelques passants ont déjà pu essayer les équipements.
Je trouve qu'il est très joli, il est très bien situé en plus. Et pour nous qui sommes d'ici, ça nous rappelle quand même la polyclinique qui était là. Je trouve que c'était un endroit magnifique et c'est bien de l'exploiter pour des enfants.
Je trouve que les infrastructures sont vraiment pas mal pour les pratiquants de sport. Donc voilà, très content de l'ouverture de ce parc. Et puis je vois que les enfants en profitent et tout, donc c'est super sympa.
Moi je suis contente parce que c'est vrai que c'était un lieu un peu abandonné avant. Et puis même quand t'es grand, c'est cool de revenir dans un parc, ça rappelle des souvenirs. Et en plus c'est juste à côté du lycée-collège, donc c'est sympa pour les jeunes de venir se poser. En plus il y a plein de bancs, donc ouais, c'est vraiment sympa. Cool, et on voit les petits, ils sont tout contents.
Moi j'adore.
Moi j'aime bien aussi.
J'aime bien les tyroliennes puisqu'on va vite.
Et voilà, le site est également doté d'une exposition permanente qui retrace l'histoire de la construction du Fleet Hospital de l'armée américaine jusqu'à la fermeture de la polyclinique en 2018. Et si c'était vous le gagnant du million, le grand jeu RRB sur Radio Rythme Bleu, attention, le tirage au sort, c'est tout à l'heure à 14h. Vous avez encore donc un peu plus de 2 heures pour envoyer RRB au 40-20. RRB au 40-20, si vous êtes tiré au sort à 14h, vous remportez 1 million en bons d'achat à dépenser où vous voulez, quand vous voulez. Notez-le, notez que ce matin, déjà sur ce jeu, Yannick de Conné a envoyé son SMS au bon moment et il remporte 100 000 francs à dépenser où il veut, quand il veut. C'est déjà un bon début. Mais le tirage au sort du million, c'est donc à 14h. Vous pouvez envoyer RRB au 40-20 jusqu'à 14h, qui est l'heure du tirage au sort sur Radio Rythme Bleu. Il n'y a pas de jour sans jeu. 11h51, on se retrouve dans un petit instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Votre enfant envisage des études à l'étranger ? Le Salon Getready vous accompagne dans ses projets d'orientation post-bac. Vendredi 4 après-midi et samedi 5 juillet au CREPAC à Nouville. Infos sur les démarches, les pays, les aides. L'entrée est libre. Plus d'infos sur Facebook.
Du 3 au 6 juillet, la Maison des Artisans se transforme en jardin pour le salon Floralise et Jardinage. Sur 4500 m², découvrez plantes, fleurs, arbustes, aménagements et toute la motoculture. Collectionneurs et passionnés, rendez-vous au salon Floralise et Jardinage à la Maison des Artisans du 3 au 6 juillet.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
En métropole, le socle commun du gouvernement reste fragile. En témoigne cette passe d'armes entre le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et sa collègue de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Passe d'armes qui fait suite à une tribune du ministre de l'Intérieur qui demande un moratoire sur l'éolien et le solaire. Les explications d'Arthur Delaborde pour Europe 1.
En vantant son bilan en matière d'écologie, Emmanuel Macron tacle Bruno Retailleau sans le nommer.
C'est pas une bonne idée de dire on va plus faire de renouvelables dans notre pays, on va plus investir. C'est des bons investissements. Parce que quand ils sont amortis dans le temps, ils sont amortis dans le temps, ils sont les moins chers. Donc faut pas tout caricaturer, il faut sortir parfois des lubies.
Un peu plus tard, le chef de l'État revient à la charge sur la nécessaire discipline gouvernementale.
Le Premier ministre, il doit diriger son gouvernement. Et les ministres du gouvernement doivent s'occuper des politiques qu'ils conduisent. Ceci, on se met à avoir des ministres qui s'occupent de tout, ça s'appelle plus un gouvernement. Il y aura le temps des débats, des programmes. Là, il y a le temps du gouvernement de la France.
Un coup de pression présidentiel ciblant à la fois François Bayrou et le ministre de l'Intérieur qui assume.
Ce que nous disons, nous, c'est que bien sûr que les énergies renouvelables ne sont pas à interdire, elles sont nécessaires, mais comme complément. Il n'y a plus besoin de les subventionner parce que si on les subventionne, alors on va alourdir la facture pour les Français.
Le patron de LR a le droit de s'exprimer et pas uniquement sur les sujets régaliens, explique un proche de Bruno Retailleau.
François Bayrou aussi a réagi. Le Premier ministre assume la diversité des points de vue au sein de son gouvernement. Il l'a rappelé au micro de nos confrères de BFM.
J'ai voulu un gouvernement de poids lourd. Un gouvernement de poids lourd, vous le menez pas comme une classe enfantine. Mais il n'y a qu'une politique du gouvernement. C'est moi qui tranche, c'est ma responsabilité.
François Bayrou sur le plateau de nos confrères de BFM. 933 vols annulés en métropole, c'est la conséquence de la grève déclenchée par les contrôleurs aériens qui protestent contre une réorganisation plus contraignante de leur service par la direction de l'aviation civile. Une perturbation des vols qui impacte quelques 300 000 voyageurs à travers toute l'Europe et qui a aussi un coût pour les compagnies aériennes. Barthélémy Philippe.
Air France, Transavia ou encore Ryanair qui a été contraint d'annuler 170 vols en deux jours. Les dirigeants des compagnies les mieux implantées dans l'Hexagone s'arrachent les cheveux et il y a de quoi. Elles vont perdre des millions d'euros à cause de ce mouvement social aux revendications inacceptables, a fustigé le ministre des Transports Philippe Tabarot. Le PDG de la compagnie irlandaise Ryanair, Michael O'Leary, est encore plus furieux. Il appelle l'Union européenne à légiférer pour réduire le pouvoir de nuisance des contrôleurs français, car la grève frappe aussi le simple survol de l'espace aérien français, suspendu à la présence d'un nombre suffisant d'aiguilleurs dans les tours de contrôle, donc potentiellement les centaines de milliers de passagers qui transitent vers l'Espagne, le Royaume-Uni, la Grèce ou l'Irlande. Selon l'organisation européenne Eurocontrol, chaque minute de retard coûte 100 euros aux compagnies, près de 20 000 euros pour l'annulation d'un seul vol. Pour un jour de grève, les pertes des compagnies implantées dans l'Hexagone atteindraient 20 millions d'euros.
Emmanuel Macron promet des mesures de rétorsion à l'encontre de l'Iran si le régime des Mollahs maintient ses inculpations à l'encontre des deux prisonniers otages français incarcérés depuis mai 2022. Cécile Kohler et Jacques Paris sont accusés d'espionnage pour le compte d'Israël, de complot pour renverser le régime et de corruption sur Terre. Une provocation ou en tout cas un message clair, commente David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IRIS. Il est spécialiste du Moyen-Orient.
Il y a un message qui est adressé à la France, parce qu'il y a trois chefs d'inculpation qui sont très lourds, passifs de la peine de mort, notamment le dernier qui est corruption sur terre, qui est un des plus lourds du code pénal iranien. Il se trouve que jusqu'à présent, il y avait un flou qui entourait justement les justifications de l'incarcération de Cécile Kohler et Jacques Paris. Il a été levé aujourd'hui avec ces inculpations. Évidemment, le problème aujourd'hui qui est posé, c'est par-delà les conditions épouvantables de détention qui sont les leurs. C'est le risque. Alors, heureusement, d'une certaine manière, malgré tout, ils ne sont pas des binationaux, c'est-à-dire qu'ils sont moins exposés que ne le seraient ceux ayant une double nationalité, parce que l'Iran ne reconnaît pas la double nationalité. Donc là, il s'agit de ressortissants français, mais incontestablement, il y a un message violent qui est adressé effectivement au gouvernement français, et on peut penser que c'est pas anodin compte tenu du contexte général.
Et à ce jour, le régime iranien n'a jamais exécuté de prisonniers étrangers. 11h56, la dernière pause de ce journal, avant de se retrouver pour parler sport. Et ensuite, ce sera le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
À la recherche d'une voiture d'occasion. Direction les occasions du village automobile OPK4 à Nouméa. Plus de 200 véhicules d'occasion révisés, garantis vous attendent. Citadine agile, pick-up robuste ou SUV racé. Vous avez le choix au meilleur prix. Le financement, nous avons les solutions. Alors, inutile de chercher ailleurs, car les occasions du village automobile, c'est le grand parc d'occasion de Nouvelle-Calédonie. Rendez-vous au village automobile OPK4 à Nouméa, à côté de la Save Express, au 41 45 08 ou sur Facebook. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Ce jeudi 10 juillet, le Nord vient à votre rencontre sur la place des Cocotiers. Artisanat local, gastronomie, marché agricole et de la mer, produits horticoles, groupes de danse et de musique, les communes du Nord vous réservent de beaux partages et des saveurs authentiques. Le jeudi du centre-ville, l'authenticité du Nord, c'est ce jeudi 10 juillet de 8h à 19h, place des Cocotiers. Infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, direction les Palaous.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Les mini-jeux du Pacifique où la délégation calédonienne compte désormais à son actif 14 médailles. On va revenir, Léo Fichou, sur les résultats de ce matin et d'hier notamment.
Une médaille d'argent a été glanée ce matin en athlétisme. Elle est signée Natalia Prado sur la finale du 10 000 mètres. La calédonienne est arrivée au bout de l'effort en 38 minutes, 29 secondes et 15 centièmes, juste derrière la représentante des îles Mariannes du Nord. Une course presque au coude à coude entre les deux athlètes, explique Natalia Prado.
Les trois premiers tours, j'étais un peu lente par rapport à les temps que j'avais prévu. Du coup, je me suis dit, bon, tant pis, je fais ma course. Et je suis passée devant, j'ai de suite plus ou moins pris mon allure. Donc je passais tous les tours. Et je ne sais plus combien, il en restait 14, je crois. Elle est passée devant. Et je me suis dit, je garde mon allure, pas très envie d'exploser. Donc on a gardé une distance pareille, constante, plus ou moins un bon bout de temps. Je me suis dit qu'il valait mieux assurer la médaille, finir la course. Et il reste encore beaucoup de courses, donc j'ai préféré garder mes mollets et mes jambes.
D'autres courses d'athlétisme sont prévues, notamment le 100 mètres en athlétisme et en para-athlétisme aussi, ce sera ce soir. On parle de natation également. Hier soir, Luc Mercier avait remporté une médaille de bronze en natation. Donc il a terminé 3e du 1500 mètres nage libre. Une belle performance sur une distance exigeante. Luc Mercier se dit satisfait de ses résultats.
Je suis très content. Bah, pour moi, de mon point de vue, j'ai donné le meilleur de moi ce matin. J'ai amélioré mon temps de plus de 15 secondes et j'ai donné mon meilleur et puis ça a payé et je suis très content.
Clara Delunel chez les filles et Yaron Nodan chez les garçons participaient eux au final du 100 mètres nage libre. Ils terminent respectivement 6e et 5e au classement. Enfin, le relais mixte était aligné sur le 4x50 mètres nage libre. Ils terminent 5e. Les nageurs seront de nouveau engagés dans de nombreuses courses. Aujourd'hui, les finales sont à suivre dès 19h30.
Alors, il y a eu des médailles hier et on vient de le voir, il y a eu aussi quelques déceptions.
En haltérophilie, tout d'abord, Sylvain Duclos, invité par la Fédération Océanienne d'Haltérophilie, était engagé dans la compétition chez les moins de 79 kilos. Il avait terminé 3e troisième il y a deux ans au Jeu du Pacifique au Salomon. Cette année, il termine cinquième avec un total de 263 kilos soulevés. Une belle performance qui n'aura malheureusement pas suffi pour se hisser sur le podium. Il nous a fait part lui aussi de sa déception.
C'est pas du tout ce que j'espérais, mais au moins j'ai assuré un total et je suis quand même classé. Donc ça aurait pu être pire. Je dirais pas que c'est un problème de travail. J'ai quand même fait ce qu'il fallait, mais un peu surpris par la catégorie poids où je suis depuis seulement deux mois. Donc voilà, ça tire un peu et avec un peu plus de temps, ce sera mieux.
Du côté du beach volley féminin, après une défaite lors de leur première rencontre contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Calédoniennes ont perdu leur deuxième match face aux Samoa américaines. En tennis de table, résultat contrasté avec tout d'abord la défaite en quart de finale du tournoi de double de Jérôme Morisseau et de Mathis Pindon. Ils se sont inclinés 3-7 à 0 contre Tahiti. On signalera toutefois les victoires en individuel pour Mathis Pindon et Raphaël Kine. Raphaël Kine qui affrontera Kiribati à 12h35 heure de Nouméa. Mathis Pindon sera confronté à un concurrent de Tahiti à 21h30. Jérôme Morisseau affrontera lui un joueur de Palau depuis 11h20. Le match est donc en cours. Et puis on suivra aujourd'hui du volleyball. La Nouvelle-Calédonie jouera contre Palau à 17h.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
On va suivre encore évidemment les mini-jeux du Pacifique à Palau, mais on va suivre aussi dans les semaines qui arrivent un autre événement, le Tour de France.
Hercalin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, Bangkok, Singapour, Sydney, Auckland ou Papeete, plus de 100 destinations vous attendent. Avec Hercalin, vivez le monde!
C'est la 112e édition de la Grande Boucle et elle s'élancera demain soir pour nous, Léo, peu après 22h heure de Nouméa.
Avec une première étape autour de l'île, départ et arrivée dans le centre-ville aux abords de la citadelle, 184,9 km sans grande difficulté, si ce n'est trois petits cols de 4e catégorie. À ces dernières heures, la capitale des Hauts-de-France accueillait la présentation des équipes et des 184 coureurs. Un moment festif lors duquel certains cyclistes ont été accueillis comme des rockstars.
Le sextuple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. Il a porté le maillot jaune. Il a gagné la Flèche Wallonne à trois reprises. L'accueil de Lille pour le double champion du monde. Le D'Artagnan du peloton, c'est Julien Alaphilippe.
Ouais, ça fait chaud au cœur. J'ai pas vraiment les mots, mais un grand merci pour votre accueil.
Le Français Julien Alaphilippe qui rêve d'une victoire d'étape cette année, alors que de son côté, Tadej Pogacar a clairement affiché ses ambitions. Remporter un quatrième Tour de France. Départ de la première étape demain soir pour nous à 22h10.
La suite en tennis du tournoi de Wimbledon. Chez les hommes, deux Français sont qualifiés pour le troisième tour. Adrian Manarino défiera Andrei Rublev et Arthur Rinderknecht affrontera Kamil Meierschak. Il pourrait être rejoint par Gaël Monfils. Le match entre le vétéran tricolore et Martin Fuskovic a été arrêté par le couvre-feu alors qu'il y avait 2-7 partout. Que chez les dames, Elsa Jacquemot s'est inclinée cette nuit au deuxième tour, mais Diane Paris est donc la seule représentante et dernière représentante tricolore. Elle sera opposée la nuit prochaine au troisième tour à la Britannique Sonei Kartal. Et puis double actualité rugby ce week-end, la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Italie et le début d'une tournée d'été du 15 de France.
Après avoir battu l'Espagne 49 à 11 en ouverture du Mondial, c'était dans la nuit de dimanche à lundi, les Bleus seront opposés au Pays de Galles à minuit et demi la nuit prochaine. Le sélectionneur a effectué 9 changements dans le 15 de départ. On retrouvera notamment l'arrière de l'UBB, John Etchegaray, ou encore Liam Akrab au poste de pilier. Il avait été élu meilleur joueur du tournoi des 6 nations des moins de 20 ans. De leur côté, les joueurs du 15 de France démarreront leur tournée d'été demain en fin de journée. Une tournée d'été 100% néo-zélandaise, puisque les joueurs de Fabien Galthié défieront à trois reprises les All Blacks. Demain à Dunedin, le samedi 12 à Wellington et enfin le samedi 19 à Hamilton. Un 15 de France remanié, une équipe inexpérimentée, encadrée tout de même par quelques anciens. Fabien Galthié, le sélectionneur, s'est défendu en conférence de presse.
On peut l'appeler comme on veut, c'est l'équipe de France, mais des contraintes liées au calendrier top 14 associé à la Coupe d'Europe et associé au tournée de novembre et tournée des 6 nations ne laisse pas la place à autre chose que reconstruire une équipe pour la tournée d'été. Le défi semble impossible à réaliser. Est-ce que tu en es ? Il y en a qui ont préféré rester en France et on comprend bien, vu la saison qu'ils ont passée. Ils étaient disponibles, mais tout cela, on dit oui.
Et comme lors de la victoire 26-24 sur l'Angleterre fin juin, c'est Gaël Ficou qui sera capitaine demain face aux Néo-Zélandais. Gabin Villiers, un temps incertain, sera bien titulaire. Sur l'autre aile, Tom Spring connaîtra sa première sélection. All Blacks France, coup d'envoi demain à 18h05.
Midi 5, la fin de ce journal.